Nous allons commencer par prendre deux psaumes qui nous introduiront au sujet de notre session. J'ai choisi de me baser surtout sur les 11 premiers chapitres de la Genèse, parce qu'il y a un certain nombre de clés importantes pour le reste, et nous essayerons seulement de donner une perspective à partir de ces 11 premiers chapitres pour le reste de la Genèse de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc je commence par toucher notre sujet à partir de deux psaumes. Et je prends ces deux psaumes parce que ils sont issus de tout un background, de tout un arrière-fond important, c'est l'arrière-fond de la réflexion religieuse de tout le Proche-Orient ancien, et nous allons voir que nous allons tabler très souvent sur ces origines de notre culture humaine, tout simplement. C'est présent dans la Bible, et d'une manière très particulière dans les débuts. Et en même temps, il y a, à travers ces textes, une préoccupation de faire percevoir à celui qui prie la manière tout à fait typique et personnelle du peuple d'Israël de prier son Dieu comme le Créateur. Je prends d'abord le psaume 8 que vous connaissez très bien. Seigneur notre Dieu, qu'il est grand, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. Et ça nous servira de prière au départ de notre session. Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux, par la bouche des enfants, des tout-petits, tu l'établis, lieu fort, à cause de tes adversaires, pour réduire l'ennemi et le rebelle, à voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, le fils d'Adam que tu le veuilles visiter? À peine le fis-tu moindre qu'un dieu. Tu le couronnes de gloire et de beauté pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut mis par toi sous ses pieds. Brebis et bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, l'oiseau du ciel et les poissons de la mer, quand il va par les sentiers des mers. Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Entre le premier Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, et le deuxième à la fin, répétition du premier, Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, il y a toute une méditation, toute une contemplation qui prend place. On ne redit pas de la même manière le premier et le dernier verset. Il y a tout un chemin d'intériorisation, de redécouverte de ce qu'est la création. J'ai pris la traduction de la Bible de Jérusalem. Vous connaissez davantage la traduction du psautier que l'on utilise d'habitude, peu importe. Les variantes sont dues à des traductions différentes de tel ou tel terme ou de telle expression. Qu'il est grand ton nom par toute la terre, lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux. Et comme on le note ici, lui qui redit ta majesté, c'est une conjecture. Le texte hébreu dit davantage donne ta majesté plus haute que les cieux. Par la bouche des enfants des tout-petits, Tu l'établis lieu fort à cause de tes adversaires pour réduire l'ennemi et le rebelle. Présence de Dieu, plus haute que les cieux, c'est-à-dire ce que nous appelons nous la transcendance, il dépasse absolument tout. Et pourtant, le plus petit, la bouche des enfants, des tout-petits, peut le découvrir. Le plus haut est découvert par le plus bas, l'enfant. La bouche des enfants, des tout-petits. Donc quand l'enfant commence à balbutier, il dit déjà la grandeur de Dieu. Il faut pouvoir le lire. Tu l'établis, lieu fort à cause de tes adversaires. Et c'est vrai que ce que l'on veut dire par là, c'est que le nom de Dieu est établi par rapport à toutes les idoles. Nous aurons l'occasion de voir d'ailleurs ce que signifient ces idoles, les adversaires de Dieu, c'est-à-dire tous les dieux que nous mettons à sa place et que nous nous fabriquons parce que nous avons besoin d'images pour réduire l'ennemi et le rebelle. Donc ce que Dieu doit faire, c'est réduire l'ennemi et le rebelle. Nous regardons généralement cela comme une victoire contre des ennemis. Et en fait, c'est une victoire de l'amour de Dieu qui va pénétrer l'ennemi jusqu'à le rendre ami. Nous verrons que tout cela est présent dans les textes. Et une fois que l'on a dit la puissance ou la grandeur du nom de Dieu par toute la terre, lui qui est présent dans le ciel est présent sur la terre, le ciel est reconnu sur la terre, la présence de Dieu est reconnue, et maintenant, c'est l'homme qui va essayer de découvrir à travers la réalité humaine, la création comme nous l'appelons, la nature comme d'autres diront, découvrir cette présence de Dieu immanente cette fois. On a découvert d'abord le Dieu transcendant, le Dieu qui dépasse absolument tout, et maintenant on le découvre présent à l'intérieur. Avoir ton ciel, le ciel. Non, ce n'est plus le monde de Dieu, c'est le monde de l'homme, le ciel de l'homme. Hein? La majesté de Dieu est plus haute que les cieux. Vous voyez, on avait commencé par dire qu'il est plus grand que tout, que toute la création. Maintenant, avoir ton ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Là, il y a une référence au premier chapitre de la Genèse. La lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, que tu t'en souviennes? Important de dire qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes. On ne se réfère à quelqu'un pour lui dire le souvenir que l'on a que parce qu'on a quelque chose en commun avec lui. On se souvient de quelque chose qui s'est passé entre nous. Qu'est donc le mortel pour que tu t'en souviennes? Et donc c'est que Dieu qui est aussi, c'est que l'homme qui est aussi ouvrage des doigts de Dieu, a comme reçu l'empreinte de ces doigts de Dieu, et dans cette empreinte, il reconnaît sa présence. Donc, sur son être même, sur son corps, il reconnaît les doigts et les traces de Dieu. Qu'est donc le mortel pour que tu t'en souviennes? Et la phrase revient presque telle qu'elle dans le livre de Job. Tu m'as façonné, souviens-toi que tu m'as créé, que tu m'as formé. Le fils d'Adam, que tu veuilles le visiter. Visiter est un thème extrêmement important dans toute la Bible, depuis la visite de Dieu dans la création et après le péché de l'homme, nous aurons l'occasion d'en reparler, jusqu'à la visitation du Nouveau Testament, la visitation de Marie et d'Élisabeth, et tout à fait à la fin, la visitation de Dieu. Le terme de visitation est exprimé pour dire ce que nous appelons généralement le jugement, c'est-à-dire la rencontre, le jugement définitif dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que l'homme? Et il faut répondre à cette question, qu'est-ce que l'homme? Homme, qui es-tu? C'est bien la première question qui se pose à l'homme, qui es-tu? Qui es-tu au milieu de ce monde? On vient de décrire brièvement le ciel et la présence de Dieu qui dépasse tout. Et maintenant, on s'attache à découvrir qui est l'homme. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu. ici, vous voyez, il n'a pas peur de parler de Dieu, alors que un Dieu, un faux Dieu, il l'a dit dans la première strophe, n'a pas de consistance en lui-même, puisque seul Dieu existe. Les idoles sont des créations de l'homme. À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté ou de splendeur, tu le couronnes. Important de dire que l'homme est un roi, le roi de la création. La couronne est le signe de la royauté. Qu'est-ce à dire ? Quelle est cette royauté dont l'homme est revêtu ? Cette couronne, on l'a remarqué aussi, peut symboliser aussi la tiare du prêtre. Est-ce que l'homme ne serait pas aussi un officiant au milieu de la création ? Nous verrons que tout ceci qui est déjà évoqué dans le psaume, plutôt qui est évoqué comme un sommaire, hein, comme un condensé dans le psaume, nous allons voir qu'il s'inspire d'une réalité présente déjà dès les premiers textes de la Bible. Tu le couronnes de gloire et de beauté, pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. L'homme a une domination à exercer sur l'œuvre de tes mains. Ouvrage de tes doigts, le ciel, l'œuvre de tes mains. De quelle domination s'agit-il ? Est-ce que l'homme peut faire n'importe quoi de l'œuvre des mains de Dieu ? Tout fut mis par lui sous ses pieds. L'œuvre des mains de Dieu est mise sous les pieds de l'homme. Le pied est généralement le signe, le symbole du pouvoir. Et donc l'ouvrage des mains de Dieu, c'est l'ouvrage des mains de Dieu, ce qui est dans les mains, c'est un avoir, est mis sous le pouvoir de l'homme. Qu'est-ce à dire ? Et tout ce texte pose déjà pas mal de questions. Et puis on va détailler ce qui est sous les pieds de l'homme, brebis et bœufs tous ensemble, ovins et bovins, nourris ou non de produits de la vache folle. C'est pas dit ici, mais enfin bon. Brebis et bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs. Généralement, on traduit par bêtes sauvages, ici c'est les chayot hasadeh. En hébreu, signifie davantage les bêtes sauvages par les bêtes domestiquées. Et pas seulement ce qui est sur le plancher des vaches, mais ce qui est au-dessus et en dessous. L'oiseau du ciel et les poissons de la mer, les trois dimensions. Quand il va, le poisson en question, par le sentier des mers. Donc tout ce qui échappe au regard de l'homme et qui est présent comme vie au milieu de ce qui symbolise la mort. La mer, vie présente là à l'intérieur de cette mort. Et une fois décrit, et voyez en quels termes, l'œuvre de Dieu, la réalité de l'homme, la création tout entière qui est remise entre les mains ou sous les pieds de l'homme, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu. Notre Dieu est important ici. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est le nôtre. C'est donc un acte de foi en même temps, ce psaume. Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Il est grand ton nom si c'est par toute la terre, c'est de nouveau une affirmation de monothéisme. Dieu est unique, mais il est notre Dieu. Il est grand ton nom par toute la terre. Oui, une ouverture, ce psaume est vraiment une ouverture, qui nous fait méditer en même temps cette grandeur de Dieu qui nous dépasse, l'initiative qu'il a prise dans la création, ouvrage de tes doigts, et en même temps, cette création, il la partage à l'homme, et l'homme peut la découvrir, la gérer, l'utiliser. Il faudra voir comment. Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, et ce grand nom, nous donne aussi notre grand nom, le mortel. Le mortel n'est pas grand-chose, il n'est que mortel, et pourtant, il est extrêmement important, puisqu'il est un peu moindre qu'un Dieu. Voilà un psaume de la création, et nous verrons que ce psaume s'inspire de toute une théologie qui existe déjà en dehors d'Israël et qui magnifie la création, en des termes peut-être un peu différents, mais il y a des expressions qui reviennent. Depuis qu'on connaît mieux la littérature ougarite, ougarite qui se trouvait vers les 1600 avant Jésus-Christ, royaume qui se trouvait au nord de la Syrie, sur le bord de la mer, depuis qu'on connaît mieux les hymnes et les tablettes d'ougarite, on a découvert pas mal d'inspiration des psaumes dans toute cette littérature. Donc ce n'est pas une littérature qui est tombée du ciel, mais qui c'est une littérature qui s'inspire d'un courant déjà existant, d'une certaine présence de Dieu, à la fois comme transcendant et comme proche de l'homme. Et je vais prendre un psaume qui est encore plus proche de cette littérature-là. C'est le psaume 28, que vous connaissez bien aussi. Et c'est ce psaume, 29 dans l'hébreu, c'est généralement dans la liturgie, c'est 28, en hébreu c'est 29. Et donc c'est ici la Bible de Jérusalem, titre « Hymne au Seigneur de l'orage ». Effectivement, on a retrouvé pas mal de stèles, de représentations, d'un taureau, et sur le taureau se trouve un dieu avec la grande tiare, c'est une tiare royale et sacerdotale, un dieu qui brandit les éclairs. Et ce grand dieu répand sa voix dans toute la création. Généralement, ce dieu qui s'appelle le dieu Hadad, c'est le maître de la création, c'est le maître de l'orage, c'est celui qui apporte les pluies de printemps et donc la fécondité. On retrouve cela à peu près partout depuis le 8e millénaire avant Jésus-Christ. Depuis cette époque, on retrouve des représentations de ce dieu Hadad. Oui. H-A-D-A-D. Hadad. On l'écrira peut-être après. On y reviendra sur tout cela. Ceci n'est encore qu'apéritif. Rapportez au Seigneur, fils de Dieu. Voyez, on s'adresse au fils de Dieu que l'on assimile la plupart du temps aux anges, rapportez au Seigneur, fils de Dieu, à tous les êtres invisibles, rapportez au Seigneur gloire et puissance. Et ici, vous découvrez aussi une hymne au Dieu unique. Et c'est vrai qu'il y a toujours, dans tout le Proche-Orient ancien, il y a toujours cette perception, sinon d'un Dieu unique, en tout cas d'un Dieu chef, d'un Dieu ordonnateur. Nous verrons qu'il faut mettre quelques bémols à cela, mais enfin, disons qu'il y a quand même cette idée dans le mot de « El » que vous retrouvez partout, « El » qui signifie « Dieu », une manière de dire en français « l'innommable » et « El », que vous retrouvez encore dans « Elohim » en hébreu, que vous trouvez dans « Allah », dans « Bab-Ilon »,« Bab-Ilani », etc. Donc ce terme de « El » désigne le grand Dieu, le grand Dieu. Rapportez au Seigneur, fils de Dieu. Fils de Dieu peut être aussi interprété d'autres dieux. Rapportez au Seigneur gloire et puissance, donc c'est lui qui tient tout en main. Gloire, puissance, deux termes comme beaucoup dans les psaumes qui ne sont pas évidemment clairs. La gloire, c'est l'importance que quelqu'un prend, littéralement par son poids, kavod. La gloire, en hébreu, c'est le poids que quelqu'un a, poids physique, poids moral, poids en raison de sa richesse, par exemple. Peut-être la gloire peut exprimer différentes choses. Ce n'est pas d'abord et avant tout la renommée, comme la doxa en grec. Gloire et puissance. Puissance, ce n'est pas la force qui domine d'abord, mais c'est la force active, la force de vie. Rapportez au Seigneur la gloire de son nom, hein, le nom signifiant la personne, adorer le Seigneur dans son éclat de sainteté. Qu'est-ce que c'est qu'un éclat de sainteté? C'est la manière, c'est la gloire de nouveau, c'est la manière dont la présence, l'amour de Dieu, apparaît dans son éclat. C'est une manifestation. Et la sainteté de Dieu, c'est sa réalité absolument unique. Et saint, ce qui est divin, finalement. Donc voilà une invitation qui est donnée par le psalmiste, rapportée au Seigneur, rapportée tout ce qui apparaît dans le monde comme gloire et puissance, rapportez au Seigneur la gloire de son nom, dites, hein, en d'autres termes, que c'est lui qui tient tout en main, c'est un peu comme dans le psaume 8, Dieu qui est le maître, le transcendant, adorez le Seigneur dans son éclat de sainteté. Adorez signifie reconnaître. En hébreu, le terme adorer, c'est la prosternation, la reconnaissance de la grandeur de quelqu'un. Étymologiquement, dans le français, adorer, c'est mettre vers la bouche, adorare, prier vers, mais baiser dans son éclat de sainteté. Donc découvrez de nouveau la transcendance extraordinaire de Dieu. Et puis, Dieu va être exprimé par sa voix. Bien sûr que la voix va déterminer comme l'éclat de sainteté, la gloire, vont être reprises à l'image d'un orage. Un orage, c'est quelque chose qui dépasse absolument l'homme. Et la voix du tonnerre et le feu de l'éclair dominent et dépassent absolument tout ce que l'homme peut concevoir comme feu et comme voix. Et donc, l'importance de cette voix, mais la voix parle. Vous savez que dans la théophanie, dans les différentes théophanies, les apparitions de Dieu, Dieu parle avec le langage du tonnerre, comme à Moïse au Sinaï, chapitre 19e de l'Exode. Dieu parle dans la voix du tonnerre, et Dieu se manifeste dans le feu de l'éclair. Voix du Seigneur sur les eaux. Le Dieu de gloire tonne. On reprend tout à fait l'image du Dieu de la fécondité qui apparaît au printemps dans le tonnerre et les éclairs. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l'éclat. Cela peut faire allusion à la création. Cela peut faire allusion au déluge, la voix du Seigneur puissante sur les eaux. Ça peut faire allusion au passage de la mer des roseaux. Vous voyez, il y a différentes images qui peuvent être la référence de ce texte. Et c'est souvent comme cela dans les psaumes. Dans les psaumes, on n'aime pas ce qui est trop historique. On ouvre, on élargit, on universalise. C'est un principe habituel de la sagesse, c'est d'universaliser une réalité pour montrer que ce qui se passe dans un petit coin perdu du monde, hein, comme en Israël, est en fait une expérience que tout le monde peut aborder. Voix du Seigneur, elle fracasse les cèdres. Alors que l'homme doit peiner pour abattre des cèdres, le temps a mis des années pour faire s'élever sur la montagne, le Seigneur le fracasse avec un simple éclair. Voix du Seigneur, elle fracasse les cèdres. Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban. N'oublions pas que le cèdre, tout arbre, est une image de l'homme. Donc même les plus altiers, même les plus durs, les plus coriaces, dirions-nous, sont vaincus par cette présence de Dieu, par cette voix de Dieu. Cette voix qui est extérieure, par son ampleur, mais qui est aussi intérieure, qui parle aussi à l'intérieur, au cœur. Le Seigneur fracasse les cèdres du Liban, il fait bondir comme un veau le Liban, et le Chirion, qui est une autre chaîne de montagnes du Liban, comme un bouvillon. comme un jeune taureau. Cette image du Dieu qui est puissant et qui en même temps amène la fécondité. Le cèdre, un type de fécondité, le veau, le bouvillon, aussi un signe de fécondité espérante, et Dieu est plus grand que tout cela. Voix du Seigneur, elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur, elle secoue le désert. Le Seigneur secoue le désert de Kadesh. Là, nous avons une allusion claire, cette fois-ci. Si l'autre n'était pas tout à fait clair, sur les eaux innombrables, ici c'est tout à fait clair. Le désert de Kadesh, c'est le lieu où les Hébreux ont nomadisé, en quittant l'Égypte, avant d'arriver en terre promise. Elle secoue le désert de Kadesh. Voix du Seigneur, elle secoue les térébintes, elle dépouille les futaies. Les térébintes, le térébinte est souvent un arbre qui est planté dans un haut lieu, donc qui connote la réalité idolâtre. Eh bien, le Seigneur secoue tout cela, il renverse tout cela, il dépouille les futaies. Les futaies sont aussi dans le livre d'Isaïe, par exemple, où les images végétales sont importantes, les futaies apparaissent toujours comme la population orgueilleuse, arrogante. Et puis, dans son palais, quel est le palais? Le palais de Hadad, le temple. Ah oui, le palais de Dieu, le temple. Mais le temple est-il le palais où Dieu vient résider? N'est-ce pas aussi la réalité de l'homme, la présence humaine? Dans son palais, tout crie gloire. Cette gloire de Dieu qui se manifeste, analogiquement, métaphoriquement dans l'orage, cette gloire de Dieu est reconnue. Elle est reconnue par l'homme. Dans son palais, tout, pas seulement l'homme, mais tout, toute réalité créée, crie gloire, reconnaît par le fait d'être créé cette présence de Dieu transcendante. Et ceci est très proche de la foi musulmane, la foi de l'islam, qui nous dit « Tout homme, par le fait qu'il est créé, est soumis à Dieu, l'islam. » Et il reconnaît cette présence de Dieu. Donc tout homme naît musulman. Le Seigneur a siégé pour le déluge, tiens, voilà le terme de déluge qui vient ici. Les eaux innombrables, au début, ils sont reprises par le déluge, cette fois-ci. Il a siégé le Seigneur en roi éternel. Maintenant, on passe à une dimension à la fois plus intérieure et à une transcendance plus grande. Ce n'est pas seulement un Dieu fait de main d'homme, c'est il a siégé le Seigneur pour le déluge, donc il domine absolument sa création. Il a siégé le Seigneur en roi éternel. Et ceci nous rappelle les psaumes du règne de Dieu. Le Seigneur règne. Le Seigneur donne. La puissance qu'il a n'est pas une puissance qu'il s'arroge pour lui-même. La puissance qu'il a, il la communique. Il la partage. Le Seigneur donne la puissance à son peuple. Son peuple, c'est bien sûr Israël. C'est comme ça que c'est prévu au départ. Mais son peuple, c'est tout qui se reconnaît venant de Dieu. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La paix, shalom, c'est l'intégralité de tous les dons. La paix, c'est l'homme tel qu'il est constitué par Dieu, finalement, intégral. Voilà deux psaumes qui nous disent bien, me semble-t-il, un peu comment l'homme biblique réfléchit sur la création. C'est déjà une réflexion élaborée. Mais en même temps, la forme que vous trouvez ici rapportez au Seigneur ou voix du Seigneur sur les eaux, etc. Vous la retrouvez dans les psaumes d'Ougarit. On a remarqué que pas mal de psaumes sont très proches de cette littérature que l'on connaît mieux, probablement qu'elle existait aussi ailleurs, mais que l'on connaît mieux grâce aux tablettes découvertes là-bas. Et on a découvert aussi que pas mal de psaumes, notamment le 104, ressemblaient très fort à des psaumes égyptiens. Et ceci est intéressant parce qu'on voit que l'homme biblique puise à toutes les sources et toutes les ressources humaines. Et que, et ceci est important pour nous, et que la révélation prend le chemin de l'homme. La révélation ne s'oppose pas ou ne tombe pas comme un aérolite tombé des cieux. La révélation prend le chemin de la réflexion humaine. Voilà, pour nous mettre un peu en appétit. Maintenant, quel est le propos que je vous soumets et ce que je voudrais faire avec vous? C'est essayer de voir comment, dans les premiers chapitres de la Genèse, les 11 premiers chapitres, il y a là un enseignement extrêmement important pour nous, aujourd'hui encore. Ces premiers chapitres ont été beaucoup traités ces derniers temps, beaucoup, et c'est pourquoi je ferai abondamment allusion à toute une littérature en vous disant un peu comment l'utiliser, cette littérature. Je vais vous donner tout de suite quelques indications. C'est une première chose, c'est réfléchir sur ce qu'est le monde et ce qu'est l'homme à partir de ces textes. Et ces textes, voir comment ils émergent de toute une littérature qui a pris du temps avant de s'exprimer. On date généralement aujourd'hui de vers les années 9000 avant Jésus-Christ, 9000, 8000 avant Jésus-Christ. On date de ces années-là, 9000, 8000 avant Jésus-Christ. Du passage de ce qu'on appelle la chasse et la cueillette, l'homme qui est chasseur et qui cueille les fruits de la terre, qui les prend tels qu'ils sont, et qui prend les animaux tels qu'ils sont, l'on passe de cela au stade de l'élevage, donc de la domestication de l'animal, et aussi de l'agriculture. Et les anciennes villes, les plus anciennes villes que l'on connaisse, dans tout le Proche-Orient ancien, c'est Jéricho, probablement la plus ancienne, en tout cas une des plus anciennes, Jéricho, où il y a des murailles et un silo à grains qui existent dès 8000, certainement, entre 9000 et 8000 avant Jésus-Christ. Donc ce qui veut dire que l'homme constituait déjà une société pour se défendre contre les ennemis, les remparts, et pour se nourrir ensemble par un processus de partage, un silo à grains. C'est intéressant de voir cela. Et à peu près aux mêmes époques, vous avez tout près de Petra, en Jordanie, le site de Beida, où on a découvert aussi une petite communauté vivant dans une petite ville, constituée à peu près à la même époque, vers 8000, 7000 avant Jésus-Christ. Vous avez aussi Merneye près de l'Euphrate et en Turquie, Çatalhöyük. Voilà quatre endroits aux environs de l'Euphrate, disons. Quatre endroits où est née la civilisation agraire et la civilisation d'élevage. Donc c'est une réalité, c'est un fait tout à fait humain, cela. Et l'homme va, à partir de son expérience même, va essayer de découvrir ce qu'il est. Pourquoi il est, pourquoi il est là, pourquoi il est mortel. C'est également l'endroit où est née l'écriture. 3300 avant Jésus-Christ. On a déjà fait un bond immense, mais c'est un nouveau seuil dans la civilisation. La naissance de l'écriture, 3300, dans la région de Ur, Ur, Uruk, les Sumériens, dans le golfe de la région du golfe, comme on l'appelle aujourd'hui, El Chat al-Arabe, le golfe persique. Là où l'Euphrate et le Tigre se rencontrent pour former le delta et le golfe persique. Pourquoi 3300 est-il une date importante? Pourquoi l'écriture est-elle une date importante? C'est parce que à ce moment-là commence vraiment l'histoire. Avant cela, on parle de préhistoire. Bien sûr, de la préhistoire, on a des signes dans les ustensiles et les statuettes que l'homme a confectionnées. Il en confectionne depuis qu'il peut travailler la terre, l'argile. Mais l'invention de l'écriture dit que l'on veut transmettre une expérience à des gens qui pourront la lire et qui sont au-delà. Donc on dépasse le temps actuel. On commence à avoir une mémoire et on veut transmettre cette mémoire. Et c'est, semble-t-il, la première édition, donc à Sumer. L'histoire commence à Sumer, comme on l'a écrit. C'est là que commence vraiment, si vous voulez, un effort de réflexion sur la vie, sur l'expérience, que l'on veut transmettre à d'autres. Avec cette volonté de transmettre à ceux qui viendront après, ou à tous ceux qui pourront la lire. Et ce n'est qu'après, 200 ans après, vers les 3100 à peu près, que naît l'écriture en Égypte, et puis un peu après, vers 2600, nous la trouvons en Chine, et un peu après encore, nous la trouvons en Inde. Donc il y a de nouveau, là, il y a un foisonnement, mais qui apparaît à partir de cette petite région du Golfe, la Mésopotamie. Et voilà que la Bible commence par nous mettre en contact avec ce que l'on appelle des mythes, c'est-à-dire des réflexions philosophiques exprimées en termes qui dépassent le temps et l'espace. C'est-à-dire qu'on met tout au début, pour dire que ça dépasse le présent. Ce qui vaut au début, lorsqu'on a constitué un peuple, lorsqu'on a été constitué soi-même, le début est déjà en quelque sorte porteur de tout ce qui viendra dans la suite. Ça, c'est une expérience simplement humaine. Un enfant possède déjà, lorsqu'il naît, tout ce qui va évoluer, se développer, et devenir l'homme de plus tard. Mais tout est déjà présent en germe. Tout est déjà dans l'œuf initial. Vous voyez, c'est un peu cette idée. Et donc, voilà que la Bible commence par reprendre des mythes, c'est-à-dire des histoires qui font partie de l'expérience humaine de gens qui la précèdent, qui le précèdent de loin, qui précèdent Israël de loin. On reprend tout cela et on le met au départ de la Bible. On prend 11 chapitres à reprendre ces éléments. Je dis ces éléments parce qu'on va les ordonner, on va les élaborer autrement. Mais on prend ces éléments-là. Et la Bible nous dit cela. Elle commence par nous reprendre quatre mythes. Celui de l'homme et de la femme, celui de l'homme et de son frère, celui de l'homme à travers les générations, la passation d'une expérience, et celui de l'unité, la conformité, l'unité, la non-unité, la dispersion des hommes dans le monde. Eh bien, on va reprendre, on va puiser dans ces mythes mésopotamiens, et on va vous les donner, au départ. Et pour que nul n'en ignore, pour qu'on sache bien que c'est important de voir comment la révélation est enracinée dans une réalité humaine, nous dirions aujourd'hui incarnée, nous disons enracinée dans la réalité humaine, dans une réalité où l'on croit bien sûr à une présence de Dieu, eh bien, nous est donnée au départ. C'est de là que ça part. Partez de l'ange. Partez de l'homme. Confiance extraordinaire, d'ailleurs, en l'homme. Et au chemin de la civilisation qu'il représente dans l'histoire. Et puis, je vous dis, pour que nul n'en ignore, on va recommencer, au début du chapitre 12, lorsqu'on va vous parler de Dieu qui saisit Abraham, de l'expérience particulière d'un peuple, de la mémoire du peuple d'Israël, qu'on nous donne par le récit comme notre propre mémoire, sinon il n'y aurait pas de récit. Nous verrons d'ailleurs plus tard ce que signifie un récit, raconter quelque chose. Eh bien, on repart de Ur en Chaldée. On repart de là, de cette réalité du Golfe. Et on remonte tout le cours de l'Euphrate, c'est évidemment tout le cours de la civilisation, que on redescend cette fois-ci. On part de Ur en Chaldée, on suit l'Euphrate, où se sont situés les petits royaumes, depuis le 9e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à Jésus-Christ précisément. Mais disons jusque vers les années 500, 600 avant Jésus-Christ, au moment où on va composer ce texte, on reprend tout le cheminement d'Abraham, la civilisation qui part de là, qui remonte l'Euphrate jusqu'en Haran, c'est-à-dire les sources de l'Euphrate, et puis qui redescend le long de la mer, à travers ce que nous appelons aujourd'hui le Liban et le territoire d'Israël, jusqu'au désert du Negev. Un nomade nous apporte la civilisation depuis Ur en Chaldée jusque aux environs de Beersheba dans le Negev. Mais c'est intéressant quand même de voir cela, qu'on raconte les choses comme cela. Donc on les raconte de telle manière que nous puissions nous découvrir les enfants de ce long chemin d'évolution humaine. Nous sommes le fruit de cette civilisation. Donc voilà, un premier propos, c'est de regarder cela. Un deuxième propos, il nous vient du fait que, en avril 93, c'est-à-dire il y a 3 ans, la Commission biblique pontificale a édité un texte important, intéressant, qui est intitulé L'interprétation de la Bible dans l'Église. Ce texte, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous avez pris la peine de le lire, ça prend déjà un certain temps, mais il a été tout récemment, enfin tout récemment, il y a en juin 94, donc il y a 2 ans, il a été mis en musique, si vous voulez, vulgarisé, et bien vulgarisé, par ce petit fascicule des dossiers de la Bible, juin 94, numéro 53, dont le titre était « Interpréter la Bible ». Et il reprend justement, en le vulgarisant, le document de la Commission biblique, pour essayer de percevoir quelles sont les différentes manières d'interpréter la Bible aujourd'hui et ce que chacune d'elles peut nous apporter, et quelles en sont également les limites. Il y a des méthodes différentes. Alors, les gens se demandent parfois, mais qu'est-ce qu'il faut croire? Les uns disent ceci, les autres disent cela. Qu'est-ce qu'il faut croire? Il faut croire ce que votre foi vous dit de croire. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail à faire. Un travail d'interprétation que chacun doit faire nécessairement. La Bible n'est pas faite pour nous donner du tout fait. Ce n'est pas du prêt-à-porter. La Bible est faite pour nous faire réfléchir et pour construire quelque chose en nous. C'est ça l'édification de la révélation. Et donc c'est un peu pour vous faire percevoir les différentes manières dont on peut lire la Bible aujourd'hui et ce qu'elles apportent. Et alors il vous donne de façon très simple, très pédagogique. D'abord, hein, dans le petit éditorial, je vous lis deux paragraphes. Ce dossier de la Bible est un numéro spécial. Il est entièrement consacré aux diverses méthodes de lecture et approches de la Bible, présentées dans le document de la Commission biblique pontificale, paru en avril 1993. Cette commission, formée d'exégètes catholiques du monde entier, choisie par les responsables de l'Église catholique, représente bien les diverses manières actuelles de faire l'interprétation de la Bible dans l'Église catholique. Dans la deuxième partie de ce document, il y a d'abord une réflexion théorique, et puis une deuxième partie de ce document, la commission précise son objectif, examiner les méthodes susceptibles de contribuer efficacement à mettre en valeur toutes les richesses contenues dans les textes bibliques. Mettre en valeur toutes, c'est un peu prétentieux, toutes, mais enfin, afin que la parole de Dieu puisse devenir toujours davantage la nourriture spirituelle des membres de son peuple, la source pour eux d'une vie de foi, d'espérance et d'amour, ainsi qu'une lumière pour toute l'humanité. Voilà donc l'objectif du document qui est repris ici. Et alors, il nous fait, dans l'esprit de ce document, 12 manières de lire un texte biblique. C'est pas grand-chose. Pour le juif, il y a 70 manières de lire